Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Elles ont assuré l'essentiel, mais c'était plutôt laborieux. Les footballeuses de l'équipe de France terminent à la tête de leur groupe après la victoire d'hier soir 1-0 contre le Nigeria. La réforme de l'assurance chômage dévoilée aujourd'hui. En ligne de mire, les contrats courts. Et puis après la philo hier, place à l'histoire géo pour les candidats au bac. Nous vous dirons comment les copies sont corrigées et à quel tarif. Vous étiez encore sans doute très nombreux hier soir devant votre télé ou votre radio pour encourager nos Bleus. Elles ont été reçues 3 sur 3. Victoire plutôt poussive quand même face au Nigeria 1-0, ce qui leur permet de prendre la tête de leur groupe. Pour vous, Julien Froment, ce match face au Nigeria ne restera pas dans les mémoires.
Le contrat a beau être rempli avec cette troisième victoire en 3 matchs, l'équipe de France laisse tout de même derrière elle un goût d'inachevé. Hier soir, il a fallu une nouvelle fois l'aide de l'assistance vidéo pour débloquer la situation. Ce pénalty retiré et converti par Wendy Renard, un excès de zèle de l'arbitre pour les uns, la stricte application des lois pour les autres. La milieu de terrain Gaëtan Tinet y voit plutôt un signe.
Vous savez, je me fais souvent la parallèle avec la Coupe du Monde 2006 des garçons où on s'était difficilement qualifié et après on avait vécu une Coupe du Monde extraordinaire. J'espère que nous aussi ça sera dans ce sens-là.
Un succès étriqué dans la douleur mais qui satisfait la sélectionneur Corinne Diacre.
Le contrat est rempli, on voulait aller chercher cette troisième victoire, on l'a fait. J'ai presque envie de dire qu'on la savoure encore plus, puisqu'elle a tellement été difficile. Pour nous, c'était important de gagner. Même dans la difficulté, on a réussi à le faire ce soir.
Malgré ce bilan comptable parfait, l'équipe de France a plus soulevé d'interrogations que de certitudes. Elle a désormais 6 jours devant elle pour recharger les batteries et basculer dans une toute autre compétition qui, elle, ne pardonnera aucune approximation. Rennes, Julien Froment, Europe 1.
Et les Bleus disputeront les 8e de finale dimanche au Havre, mais on ne sait pas encore contre qui.
Et à 7h45, je recevrai Sandrine Roux, l'ancienne capitaine des Bleus et consultante sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h03.
C'est à midi qu'Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud présentent leur réforme de l'assurance chômage.
Oui, un système de bonus-malus sera instauré dans certains secteurs histoire de limiter l'utilisation des contrats courts, ainsi qu'une taxe sur les CDD d'usage. Les règles d'indemnisation seront également durcies, notamment pour les cadres les mieux payés, dont le taux de chômage est très faible, avec une dégressivité de leurs allocations, en tout cas jusqu'à 53 ans. Écoutez ce qu'en pensent ces cadres rencontrés par Maya Sido à La Défense.
Ça me fait un petit peu peur. Mon cotisation, ça fait quoi? Ça fait maintenant bientôt 20 ans. Et après, je ne peux même pas garder 50% de salaire. C'est des vols, entre parenthèses. Après, si ça fait pour inciter les gens à rechercher du travail, je suis pour aussi. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas autre solution pour inciter les gens à retravailler?
Si on est licencié pour un motif X ou Y, on est en droit de toucher un chômage en fait, décent. On veut garder le train de vie qu'on a toujours eu. Et puis, on n'attend pas après cette réforme-là pour chercher un autre travail. Être au chômage, c'est transitoire. On ne reste pas au chômage par plaisir. Donc ces cadres-là, je ne pense pas que c'est des gens qui aspirent à ne rien faire, à être sédentaires. Je trouve injuste le fait que cette loi soit même évoquée, réfléchie et appliquée.
Le gouvernement espère économiser au moins 1 milliard par an. La réforme doit être mise en œuvre cet été.
Question sensible, comment répondre à la violence au quotidien dans les prisons?
4500 agressions chaque année contre des surveillants, 8500 entre détenus. L'administration pénitentiaire teste depuis l'été dernier des unités spécifiques pour détenus violents, des UDV. Il y en aura 9 à la fin de l'année. Aujourd'hui, le centre de détention de Châteaudun en Eure-et-Loire ouvre la sienne et Justin Morin a pu la visiter pour Europe 1.
C'est un bâtiment fraîchement repeint, totalement coupé du reste de la prison. Aucun lien, jusqu'au linge des détenus qui ne devra pas être lavé ailleurs qu'ici.
Une cellule avec des toilettes, une étagère.
Virginie Magnier est la responsable de l'unité.
Et la télévision. Donc tout est scellé pour éviter que la personne détenue puisse s'en servir comme arme par destination.
11 cellules individuelles, des salles d'activité, 3 cours de promenade. Ici, pas de détenus radicalisés ni atteints de troubles psychiatriques, mais des profils violents qui s'isolent, ne parlent plus.
Voilà des petits facteurs comme ça qui, au bout d'un moment, le détenu explose. Mais ça, il faut l'anticiper.
Ils pourront rester dans cette unité jusqu'à 9 mois. Gestion des émotions, réflexion sur leur propre violence, tout un travail coordonné par Jean-Marc Touré.
On sera sur l'unité pour détenus violents à un niveau de prison en charge qui sera à peu près 4 fois supérieure à ce qu'on peut proposer en détention classique. Donc l'idée de donner les moyens aux personnes détenues de choisir d'autres formes d'expression que l'agir violent, donc ça peut passer par l'expression artistique, le rapport à l'animal, dans le cadre de la médiation animale, la place dans la famille.
Le but, c'est qu'ils réintègrent leur ancienne cellule, transformée, dit le directeur de l'établissement, et capables d'aller au bout de leur peine.
Justin Morin à la prison de Châteaudun en Eure-et-Loire. Et puis une agression très rare qui provoque l'indignation du monde judiciaire. Une des présidentes de la cour d'assises des Yvelines a été victime d'un tir de balle de défense au visage. C'était hier à son domicile. Elle souffre de plusieurs fractures. Ses agresseurs sont activement recherchés.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Brigitte Macron, désormais présidente de la fondation Pièce Jaune, inaugure ce matin la maison du répit, tout près de Lyon.
Oui, un lieu qui va permettre aux familles d'aidants qui prennent en charge un proche handicapé ou malade de souffler un peu. Autre solution pour les personnes dépendantes, notamment les seniors, les accueils de jour. Jean-Jacques Héry s'est rendu au Pivoine à Neuilly-sur-Seine qui dépend de l'EHPAD voisin. Reportage.
5 ans déjà que Christiane pousse la porte des Pivoines 2 fois par semaine pour que son mari, Victor, malade, y passe une partie de la journée. Elle pense à lui, beaucoup. Et puis elle pense à elle aussi.
Il passe sa vie dans le fauteuil qui est ici. Sans ce genre de structure ici, je ne pourrais pas le garder. Moi qui suis tout de même en pleine forme, je me retrouve toujours avec lui et qui n'est pas bien et ça tourne dans ma tête, etc. Les pivoines m'aident à ce que je puisse aussi avoir une vie extérieure pendant 2 jours par semaine. Parce que quelquefois, on a besoin de décrocher. C'est clair. J'ai une autre partie de ma vie aussi qu'il faut préserver.
Une autre vie à préserver pour les aidants. Quant à la maison, le balai des aides-soignantes, l'attention et les soins apportés aux malades usent le moral, rétrécissent la vie sociale. Une nécessité de souffler qui atteint vite un coût très élevé, 50 euros la journée au Pivoine en accueil de jour.
La sécurité sociale ne rembourse pas du tout les aides à la toilette, ne rembourse pas les pivoines. Je trouve qu'il faudrait peut-être trouver un moyen d'être un peu plus aidé.
Et lorsque l'on demande à Christiane si l'accueil de jour était la meilleure solution possible, elle répond simplement « pour l'instant, tant que ça marche comme ça, c'est parfait ».
Jean-Jacques Héry.
Après avoir planché sur la philo, les candidats du bac passent aujourd'hui l'épreuve d'histoire-géo.
Et parallèlement, les corrections démarrent. Les profs ont jusqu'au 3 juillet pour noter quelques 550 000 copies au total. Comment ça se passe? Réponse avec Sébastien Rouxel qui a rencontré l'un de ses correcteurs.
Comme tous les correcteurs, Vincent Billard va récupérer 100 à 150 copies. Mais avant de commencer la correction, il y a d'abord une réunion cet après-midi avec une quarantaine de collègues de l'académie. Ensemble, ils vont corriger quelques copies choisies au hasard, les mêmes pour tout le monde, puis ils vont comparer leurs notations, car Vincent Billard l'affirme, l'écart est parfois très important.
Effectivement, on peut trouver des gens qui vont mettre au maximum 6 à une copie et quelqu'un qui va mettre 16. À la fin, les collègues qui mettent les notes les plus hautes et les plus basses finissent par rejoindre en général un certain milieu, on va dire, voilà. Mais encore une fois, ça repose sur la bonne volonté. Si un collègue tient absolument à, on va dire, être très sévère sur un paquet qu'il a, on ne peut pas l'en empêcher. On n'a pas moyen de l'en empêcher.
Après ça, Vincent Billard aura encore 15 jours pour en finir avec son tas de copies. Alors lui dit passer 1 heure à 1h30 sur certaines, mais pour d'autres correcteurs, c'est plutôt 25 minutes maximum. La rémunération, elle, reste la même, 5 euros par copie corrigée.
Sébastien Rouxel, en tout cas hier à Albi, un lycéen a réussi à passer son épreuve du bac in extremis. Il a raté son bus, a emprunté la voiture de son père, mais pas de chance. Avec le stress, il a eu un accident. Rien de grave, mais c'était très juste pour arriver au centre d'examen. Finalement, ce sont les policiers qui ont décidé de l'emmener eux-mêmes et il est même arrivé avec 2 minutes d'avance.
C'était raccord avec le sujet de philo. Est-il possible d'échapper au temps?
Exactement.
Oui, grâce à la police, en l'occurrence. C'était le journal d'Hélène Zélani. À demain, Hélène. Merci.